Chapitre 84. Celui qui sauve.
Un, zéro, un, sept, neuf, quatre, cinq, un, huit, un, cinq, zéro, trois, zéro, cinq, trois, cinq, quatre, trois, zéro, sept, deux, un, deux, sept, deux, un, sept. Extrait du diagramme. Livre de la deuxième spirale du plafond. Motif 15.
Le bloc de pierre coulissa vers l'intérieur, confirmant les déductions de Shallan. Ils avaient ouvert un bâtiment dans lequel personne n'était entré, et que personne n'avait même vu, depuis des siècles. Rénarine recula du trou qu'il avait créé pour laisser entrer Shallan. L'air qui s'échappait de l'intérieur possédait une odeur de renfermé et de moisi. Rénarine renvoya sa lame, et curieusement, il soupira de soulagement et se détendit contre le mur extérieur du bâtiment. Shallan voulut entrer, mais les hommes de pont se faufilèrent avant elle pour vérifier la sécurité du bâtiment, levant leurs lanternes à saphir. La lumière dévoila un spectacle majestueux. Le souffle de Shallan se coinça dans sa gorge. La grande pièce circulaire était un espace digne d'un palais ou d'un temple. Une fresque de mosaïque couvrait le mur et le sol d'images somptueuses et de couleurs éblouissantes. Des chevaliers en armure se dressaient devant des cieux rouges et bleus tourbillonnants. Des gens de tous les horizons étaient représentés dans toutes sortes de décors, chacun façonné à l'aide de toutes sortes de pierres de couleurs éclatantes. Un chef-d'œuvre qui réunissait le monde entier dans une seule pièce. Redoutant d'abîmer le portail d'une manière ou d'une autre, elle demanda à Rénarine de tailler près d'un relief dont elle avait espéré qu'il indiquait une porte, et elle semblait avoir eu raison. Elle entra par la cavité et emprunta un chemin incurvé qui traversait la pièce circulaire, comptant en silence les divisions de la fresque murale. Il y en avait 10 principales, tout comme il y avait eu 10 ordres de chevaliers, 10 royaumes, 10 peuples. Et puis, entre les segments qui représentaient le premier et le 10e royaume, elle découvrit une 11e section plus étroite. Elle représentait une haute tour, Ouritiru. Elle l'avait découvert, le portail. Et ses œuvres d'art, quelle beauté! C'était époustouflant. Non, elle n'avait pas le temps de les admirer pour l'instant. La grande mosaïque murale s'enroulait autour du centre, mais toutes les épées des chevaliers désignaient la même zone du mur. Shallan s'y dirigea donc. Tout semblait ici parfaitement conservé. Même les lampes au mur, qui paraissaient encore contenir des gemmes éteintes. Sur le mur, elle trouva un disque métallique serti dans la pierre. Était-ce de l'acier? Il n'avait pas rouillé, ne s'était même pas terni malgré cet abandon prolongé. « Ça approche !» annonça Rénarine depuis l'autre côté de la pièce, d'une voix calme qui résonna sous le dôme. Nom des bourrasques, que ce garçon était perturbant. Surtout lorsqu'il était accompagné d'une tempête hurlante et du bruit de la pluie cinglant le plateau à l'extérieur. La clarissime Inadara entra, accompagnée de plusieurs érudites. En pénétrant dans la pièce, celles-ci laissèrent échapper des hoquets, puis se mirent à échanger des commentaires tandis qu'elles se précipitaient pour examiner la fresque. Shallan étudia l'étrange disque serti dans le mur. Il possédait la forme d'une étoile à 10 pointes avec une fente étroite en son milieu. Les radieux pouvaient faire fonctionner cet endroit, songea-t-elle. Et que possédaient les radieux que personne d'autre n'avait? Beaucoup de choses, mais la forme de cette fente dans le métal lui donna une idée assez précise de la raison pour laquelle eux seuls parvenaient à faire fonctionner la porte du pacte. Rénarine, venez ici, lui ordonna-t-elle. Le garçon la rejoignit d'un pas pesant. Shallan la mit en garde motif. Nous avons très peu de temps. Ils ont invoqué la tempête éternelle. Et il y a autre chose qui provient de l'autre direction. Une tempête majeure? C'est la saison des pleurs, répondit Shallan en se tournant vers Motif, qui formait un petit creux dans le mur juste à côté du disque d'acier. Il n'y a pas de tempête majeure. Il y en a une en approche malgré tout. Shallan, elles vont se rencontrer. Deux tempêtes provenant chacune d'une direction différente. Elles vont se percuter, ici même. J'imagine qu'elles ne vont pas se neutraliser mutuellement. Elles vont se nourrir l'une l'autre, répondit Motif. Ce sera comme deux vagues qui se percutent en leur point culminant. Ça va créer une tempête comme le monde n'en a jamais connu. La pierre va se briser. Les plateaux eux-mêmes risquent de s'effondrer. Ça va être grave. Très, très grave. Shallan se tourna vers Inadara, qui venait de la rejoindre et s'était placée près d'elle. « Des idées ?»«
Je ne sais que penser, Clarissime, » répondit Inadara. « Vous aviez raison au sujet de cet endroit. Je ne me fais plus confiance pour juger de ce qui est correct ou pas. »
« Nous devons déplacer les armées vers ce plateau-ci, » déclara Shallan. « Même si elles parviennent à vaincre les Parshendi, elles sont condamnées, sauf si nous arrivons à faire fonctionner ce portail. »
« Ça ne ressemble pas du tout à un portail, » observa Inadara. « Que va-t-il faire au juste ? Ouvrir une porte dans le mur ?»«
Je n'en sais rien, » répondit Shallan en se tournant vers Enarin. « Invoquez votre lame d'éclat. »
Il s'exécuta et grimaça lorsqu'elle apparut. Obéissant à une intuition, Shallan désigna la fente pareille à une serrure à l'intérieur du mur.
Voyez si vous parvenez à gratter le métal avec votre lame. Faites très attention. Il ne faudrait pas détruire la porte du pacte si jamais je me trompe.
Renarin s'avança, et en tenant l'arme par le dessus entre deux doigts, il plaça prudemment la pointe sur le métal qui entourait la serrure. Il émit un grognement quand la lame refusa de couper. Il fit une nouvelle tentative en insistant un peu, et le métal résista à la lame.
Elle est faite de la même matière, s'exclama Shallan, de plus en plus surexcité. Et la forme de cette fente laisse penser qu'une lame doit pouvoir y rentrer. Essayez d'y faire glisser l'arme, très lentement.
Il s'exécuta, et tandis que la pointe pénétrait dans le trou, la forme tout entière de la serrure se modifia, le métal se remodelant pour s'adapter à la forme de la lame de Renarin.
Ça fonctionnait.
Il réussit à insérer son arme, et ils se retournèrent pour balayer la pièce du regard. Rien ne semblait avoir changé.
« Est-ce que ça a fait quoi que ce soit ?»
demanda Renarin.
« Il le faut, » répondit Shallan.
Peut-être avait-il déverrouillé une porte. Mais comment tourner l'équivalent d'une poignée ?«
Nous avons besoin de l'aide de la Clarissime Navani, » déclara Shallan. « Plus important, nous devons amener tout le monde ici. » « Allez-y, soldats, hommes de pont. Courez dire à Dalinar de rassembler ses armées sur ce plateau. Dites-lui qu'ils sont condamnés s'il ne le fait pas. Vous autres, les érudits, nous allons réunir nos cervelles pour tenter de comprendre comment fonctionne ce foudre de mécanismes. »
Adeline dansait dans la tempête, croisant le fer avec échenaille. Elle était douée, quoiqu'elle n'utilise aucune posture qu'ils reconnaissent. Elle esquivait d'avant en arrière, le testait à l'aide de sa lame, traversait la tempête comme un éclair crépitant. Adeline ne la lâchait pas d'une semelle, distribuant de grands coups de sa lame pour la forcer à reculer. Un duel. Il pouvait remporter un duel. Même au milieu d'une tempête, même contre un monstre, il en était capable. Il lui fit traverser à reculons le champ de bataille pour la rapprocher de l'endroit où ses armées, ayant traversé le gouffre, se joignait au combat. Elle était difficile à déplacer. Il n'avait rencontré cette échenaille que deux fois, mais il lui semblait la connaître à travers sa façon de se battre. Il percevait son appétit de sang, son appétit de mort, le frisson. Il ne l'éprouvait pas lui-même, mais il le percevait chez elle. Autour de lui, des Parshendi prenaient la fuite ou se battaient par petits groupes, tandis que ses hommes les harcelaient. Il dépassa un Parshendi que des soldats avaient plaqué à terre et qu'on éventrait sous la pluie, tandis qu'il tentait de s'éloigner en rampant. L'eau et le sang aspergeaient le plateau, et des cris paniqués se mêlaient au bruit du tonnerre. Le tonnerre. Un tonnerre lointain provenant de l'ouest. Adeline jeta un coup d'œil dans cette direction et faillit perdre sa concentration. Il voyait la tempête se préparer, le vent et la pluie tourbillonnaient en formant une gigantesque colonne traversée d'éclairs rouges. Échenaille le visa, et Adeline se retourna, parant le coup à l'aide de son avant-bras. Cette partie de sa cuirasse s'affaiblissait, et les fissures laissaient échapper de la fulgiflamme. Il entra dans la garde et abattit sa propre lame, d'une main, dans le flanc d'Échenaille. Il fut récompensé par un grognement. Cependant, elle ne céda pas. elle ne recula même pas. Elle leva sa lame et la lui abattit une fois de plus sur l'avant-bras. La cuirasse y explosa dans un éclair de lumière et de métal fondu. Bourrasque ! Adeline fut contraint de retirer son bras et de libérer le gantelet, trop lourd à présent qu'il n'était plus relié à la cuirasse. Puis il le laissa tomber de sa main. Le vent qui soufflait contre sa peau exposée était étonnamment puissant. « Encore un peu !» se dit-il, sans reculer malgré la section de cuirasse qu'il avait perdue. Il saisit sa lame d'éclat à deux mains, l'une de métal, l'autre de chair, et enchaîna par une série de coups énergiques. Il abandonna la posture du vent. Pas de grands gestes majestueux pour lui. Il avait besoin de la frénésie furieuse de la posture de flamme. Pas simplement pour la puissance, mais à cause de ce qu'il avait besoin de transmettre à Eshonaï. Cette dernière gronda, forcée de reculer. « Votre jour touche à sa fin, destructeur !» lui lança-t-elle à l'intérieur de son casque. « Aujourd'hui, votre brutalité se retourne contre vous. Aujourd'hui, l'anéantissement passe de vos mains aux nôtres. » Encore un peu. Adeline exécuta un enchaînement de coups rapides, puis il ralentit et lui présenta une ouverture. Elle la saisit aussitôt et visa son casque, qui laissait échapper de la flamme là où il avait reçu un coup un peu plus tôt. Oui, elle était totalement sous l'emprise du frisson. Il lui prêtait force et énergie, mais la poussait vers l'imprudence, vers l'ignorance de son environnement. Adeline reçut le coup à la tête et tituba. Eshonaï éclata d'un rire triomphant et s'apprêta à frapper de nouveau. Adeline se précipita vers l'avant et projeta son épaule et sa tête contre la poitrine d'Eshonaï. Son casque explosa sous l'impact, mais son pari porta ses fruits. Eshonaï n'avait pas remarqué à quel point ils étaient près du gouffre. La poussée exercée par Adeline la projeta par-dessus le bord du plateau. Il perçut sa panique et l'entendit crier tandis qu'elle chutait dans ses ténèbres à ciel ouvert. Malheureusement, l'explosion du casque laissa Adeline momentanément aveuglée. Il tituba, et lorsqu'il posa le pied, il n'atterrit que dans le vide. Il bascula, puis tomba vers le néant du gouffre. Pendant un moment indéfinissable, il n'éprouva que de la panique et de la peur, toute une éternité figée, avant de comprendre qu'il ne chutait pas. Lorsque sa vision s'éclaircit, il baissa les yeux vers la gueule qui s'ouvrait devant lui, la pluie qui tombait en rideau autour de lui. Puis il regarda de nouveau par-dessus son épaule. Pour voir deux hommes de pont qui avaient agrippé la jupe en mailles d'acier de sa cuirasse et s'efforçaient de le retenir hors du gouffre. Grognant sous l'effort, il s'accrochait au métal glissant qu'il tenait fermement en appuyant les pieds sur des pierres pour éviter de se faire entraîner. D'autres soldats apparurent et se précipitèrent pour les aider. Des mains attrapèrent Adeline autour de la taille et des épaules et ensemble, elles l'éloignèrent du bord du gouffre, jusqu'au point où il retrouva son équilibre et parvint à s'éloigner en titubant. Des soldats l'acclamèrent et Adeline laissa échapper un rire épuisé. Il se retourna vers les hommes de pont, Scar et Drei. J'imagine, déclara-t-il, que je n'ai pas besoin de me demander si vous êtes capables de me suivre tous les deux.
Ce n'était rien du tout, répondit Scar.
Ouais, ajouta Drei, c'est facile de soulever des palsiris corpulents. Vous devriez essayer de porter un pont pour voir.
Adeline sourit, puis essuya l'eau de son visage à l'aide de sa main nue.
Regardez si vous trouvez un morceau de mon casque ou de mon canon d'avant-bras. Si vous le pouvez, récupérez aussi mon gantelet.
Ils hochèrent la tête. Les éclairs rouges se multipliaient dans le ciel et la colonne tournoyante de pluie sombre se déployait vers l'extérieur. Ça ne semblait vraiment pas bon signe. Adeline avait besoin de mieux comprendre ce qui se passait dans le reste de l'armée. Il traversa le pont en courant vers le plateau central. Où était son père ? Qu'arrivait-il sur le front d'Aladar et celui de Royon ? Shallan était-elle rentrée de son expédition ? Tout semblait chaotique ici, sur le plateau central. Les vents naissants arrachaient les tentes dont une partie s'était effondrée. Les gens couraient dans tous les sens. Adeline aperçut une silhouette vêtue d'une cape épaisse qui marchait d'un pas décidé sous la pluie.
Cette personne paraissait savoir ce qu'elle faisait. Adeline attrapa son bras sur son passage. « Où est mon père ? » demanda-t-il. « Quels ordres apportez-vous ? »
Le capuchon de la cape tomba, et l'homme se retourna pour scruter Adeline avec des yeux légèrement trop grands, trop arrondis. La cape dévoila un crâne chauve, des vêtements amples et légers. L'assassin en blanc. Moash s'avança, mais n'invoqua pas sa lame d'éclat. Kaladin frappa à l'aide de sa lance, mais c'était futile. Il avait utilisé toute sa force restante pour tenir simplement debout. Sa lance ricocha sur le casque de Moash, et l'ancien homme de pont la brisa d'un coup de poing. Kaladin s'arrêta brutalement, mais Moash n'en avait pas fini. Il s'avança pour lui planter son poing cuirassé en plein ventre. Le souffle coupé. Kaladin se plia en deux tandis qu'il sentait des choses se briser à l'intérieur de lui. Des côtes cédèrent comme des brindilles sous ce coup d'une force incroyable. Kaladin toussa, aspergeant de gouttelettes de sang l'armure de Moash. Puis il gémit quand son ami recula et retira le poing. Kaladin s'effondra sur le sol de pierre froid et tout se mit à trembler. Ses yeux semblaient prêts à lui jaillir de la figure et il se recroquevilla, tremblant, autour de ses côtes brisées.
« Nom des foudres !» La voix de Moash était lointaine. « Je ne voulais pas frapper aussi fort !»«
Vous avez fait ce qu'il fallait. Grave. Ô père des tempêtes, la douleur. »«
Et maintenant ?» demanda Moash.
« Il faut terminer. Tuer le roi avec une lame d'éclat. » Avec un peu de chance, ça laissera encore croire que c'était l'assassin. Ces traces de sang sont frustrantes. Les gens risquent de se poser des questions. Tiens, laisse-moi découper ces planches pour faire croire qu'il est entré par le mur, comme la dernière fois.
L'air froid, la pluie, des cris, très lointains. Il connaissait cette voix.
Syl, chuchota Kaladin, du sang sur les lèvres.
Syl ?
Rien.
J'ai couru jusqu'à ne plus pouvoir, chuchota-t-il. Fin de la course. La vie avant la mort.
Je vais le faire, grave. Je vais endosser ce fardeau.
C'est mon droit, répliqua Moash.
Il cligna des paupières, le regard posé sur le corps inconscient du roi juste à côté de lui, qui respirait toujours. Je protégerai ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes.
Kaladin comprenait maintenant pourquoi il avait dû faire ce choix. Il roula sur les genoux. Grave et Moash se disputaient.
« Je dois le protéger, » murmura Kaladin.
« Pourquoi ?
Si je ne protège... »
Il toussa. « Si je ne protège que les gens que j'aime, ça signifie que je ne me soucie pas de faire ce qui est juste. »
Si c'était le cas, il ne se souciait que de ce qui était pratique pour lui. Malgré l'effort et la souffrance, Kaladin leva un pied, le valide. Toussant du sang, il se hissa péniblement et se mit debout en titubant entre Elokar et les assassins. Il tâtonna le long de sa ceinture avec ses doigts tremblants, et, après deux tentatives, parvint à sortir son couteau. L'effort lui soutira des larmes de douleur, et la vision floue, il vit les deux porte-éclats qui le regardaient. Moash leva lentement sa visière, dévoilant une expression stupéfaite.
« Père des tempêtes, Kal, comment faites-vous pour tenir debout ?»
Il comprenait à présent. C'était pour cette raison qu'il était revenu. C'était lié à Tien, à Dalinar et à l'envie d'accomplir ce qui était juste. Mais par-dessus tout, c'était lié au besoin de protéger les gens. C'était là l'homme qu'il voulait être.
Kaladin recula un pied, toucha le roi de son talon, puis adopta une posture de combat. Puis il tendit la main devant lui, couteau brandi. Son bras tremblait, comme un toit ébranlé par le tonnerre. Il croisa le regard de Moash. La force avant la faiblesse.
Vous, ne l'aurait pas.
« Achève-le, Moash !» ordonna Grave.
« Nom des foudres !» répondit Moash. « Ce n'est pas la peine. Regarde-le ! Il n'est pas capable de riposter. »
Kaladin se sentait épuisé. Au moins s'était-il levé. C'était la fin. Le voyage était terminé. Des cris. Kaladin les entendait à présent, comme s'ils étaient plus proches.
« Il est à moi !» dit une voix féminine. « Il m'appartient !»«
Il a trahi son serment. »
« Il en a trop vu !» dit Grave à Moash. « S'il survit à cette journée, il va nous trahir. Tu sais que j'ai raison, Moash. Tue-le !»
Le couteau glissa des doigts de Kaladin et chuta par terre avec un bruit métallique. Il était trop faible pour le tenir. Son bras retomba mollement à son côté, et il regarda fixement le couteau, hébété.
« Je m'en moque !»«
Il te tuera !»«
Je suis désolé, Kal !» dit Moash en s'avançant. « J'aurais dû en finir plus vite dès le départ !»«
Les paroles, Kaladin !»
C'était la voix de Syl.
« Il faut que tu prononces les paroles !»«
Je l'interdis !»«
Votre volonté n'importe pas !» cria Syl. « Vous ne pouvez pas me retenir s'il prononce les paroles. Les paroles, Kaladin, prononce-les !»«
Je protégerai même ceux que je déteste, » chuchota Kaladin à travers ses lèvres ensanglantées. « Du moment que c'est juste. »
Une lame d'éclat apparut dans la main de Moash. Un grondement lointain, le tonnerre.
« Les paroles sont acceptées. » concéda le père des tempêtes à contre-cœur.
« Kaladin !»
la voix de Syl.
« Ta main, présente-la-moi »
Elle se mit à volter autour de lui, soudain visible, sous forme de ruban lumineux.
« Je ne peux pas !»
répondit Kaladin, épuisé.
« Ta main, présente-la-moi »
Il tendit une main tremblante. Moash hésita. Le vent s'engouffra dans l'ouverture du mur, et le ruban lumineux qu'était Syl se changea en brume. Une forme qu'elle adoptait souvent. La brume argentée se solidifia devant Kaladin, se déploya, s'allongea dans sa main.
Brillante, resplendissante, une lame d'éclat en émergea, dégageant une vive lumière bleue depuis les motifs qui tourbillonnaient sur toute sa longueur. Kaladin inspira une profonde goulée d'air dans un sursaut, comme s'il se réveillait pleinement pour la première fois. Le couloir entier se retrouva plongé dans le noir quand la fulgiflamme de toutes les lampes murales s'éteignit. L'espace d'un instant, ils se tinrent dans les ténèbres. Puis, Kaladin dégagea une explosion de flammes. Elle jaillit de son corps et le fit briller comme un aveuglant soleil blanc dans le noir. Moash recula, le visage blême sous cet éclat, et leva la main pour se protéger les yeux. La douleur s'évapora comme la brume par une chaude journée. La poigne de Kaladin se raffermit sur la lame d'éclat luisante, une arme à côté de laquelle celle de Grave et de Moash paraissait terne. Les volets s'ouvrirent brusquement le long du couloir, l'un après l'autre, et le vent se mit à hurler autour d'eux. Derrière Kaladin, du givre se cristallisa sur le sol et progressa en s'éloignant de lui. Un glyphe se forma dans le givre, dessinant presque une forme d'aile. Grave hurla et tomba dans sa hâte de s'éloigner. Moash recula en regardant fixement Kaladin.
« Les chevaliers radieux, » dit celui-ci tout bas, « sont revenus. »«
Trop tard !» s'écria Grave. Kaladin fronça les sourcils puis lança un coup d'œil vers le roi.
« Le diagramme en parlait !»
ajouta Grave qui reculait précipitamment le long du couloir. « Nous l'avons manqué. Nous l'avons totalement manqué. Nous avons fait trop d'efforts pour vous séparer de Dalinar, sans nous demander en quoi nos actions pourraient vous transformer. »
Moash regarda tour à tour Grave et Kaladin. Puis, il se mit à courir dans un cliquetis de cuirasse et disparut dans un couloir.
« Kaladin !»
dit la voix de Syl dans sa tête.
« Il y a encore quelque chose d'anormal. Je le sens dans les vents. »
Grave riait comme un dément. « Me séparer de Dalinar ?» chuchota Kaladin. Pourquoi prendrait-il cette peine? Il se tourna pour regarder vers l'est. Oh non !